France Musique. Musicopolis. Bach, la messe en si. Parmi les grandes œuvres de l'histoire de la musique, la messe en si de Bach présente une série de paradoxes tout à fait remarquables. Une œuvre très connue, très étudiée, passée au scanner et soumise à toutes les analyses physiques, chimiques, graphologiques, théologiques et musicologiques, et dont on ne sait toujours pas pourquoi ni dans quel but Bach l'a composée. Est-ce que ça n'est pas étonnant ? Commençons par une rapide présentation de l'œuvre dite « Messe en si mineur ». D'abord, ce titre, il n'est pas de Bach. Il a été donné seulement en 1845 pour la première édition de l'œuvre comme « Grand Messe en si mineur ». Le manuscrit, lui, ne porte pas de nom. Il réunit quatre fascicules avec pour chacun la mention de son contenu. Le premier contient le Kyrie et le Gloria. Le deuxième, le Symbolum Nicenum, c'est-à-dire le Credo. Le troisième, le Sanctus, et le dernier, Hosanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona Nobis Pacem. C'est Carl Philipp Emanuel, le deuxième fils compositeur de Bach, qui a hérité de la partition à la mort de son père en juillet 1750. Et c'est en 1806 seulement, bien après la mort d'Emmanuel, que le manuscrit sera relié. De quand date cette messe en si ? On pourrait répondre à cette question que la musique en a été composée entre 1714 et 1749. Ok, il est vrai que pour plusieurs morceaux, Bach a réutilisé des œuvres anciennes. Mais il les a vraiment recomposées ou réélaborées. Et donc, la vraie réponse est un peu différente. Telle qu'on la connaît, la messe a été commencée en 1733. Cette année-là, Bach offre à l'électeur de Saxe, Frédéric Auguste II, le Kyrie et le Gloria, sous le titre de Missa. C'est déjà une belle œuvre de près d'une heure, dans laquelle Bach montre toute l'étendue et la variété de son art et de sa foi. Je vous renvoie à un précédent Musicopolis pour en savoir plus. Puis, en 1748-49, il ajoute à ce début la suite de la messe, du Credo jusqu'au Dona Nobis Pacem. Et là, autant on connaît à peu près les circonstances de composition de la Missa, autant pour la fin, on reste dans un flou quasi total. On ne sait absolument pas pourquoi Bach à l'âge de 63 ans, se met soudain à bâtir cette grande messe. Mais on se rend compte en examinant la manière dont il s'y prend qu'il construit une architecture solide et entièrement pensée. Si Bach est musicien, compositeur, interprète, chef d'orchestre, organisateur, etc., etc., il est avant tout un croyant. Et dans l'élaboration de sa messe, il rend compte de ce à quoi il croit. Le credo, bien sûr, est le moment central où il peut exprimer sa foi. Il l'appelle non pas credo, comme le font les catholiques, mais symbolum nicenum, symbole de Nicée, en référence au concile tenu à Nicée en 325, où sont adoptés les articles de la foi chrétienne. Pour dérouler tout le texte du credo, il va lui falloir 9 numéros, et il va composer 3 nouvelles pièces, dont le « Et incarnatus est » et « Il a été incarné », qui est probablement la toute dernière pièce qu'il a composée de sa vie. Le credo de la messe en si de Bach est découpé, je vous le disais, en 9 parties. Bach les a regroupées en 3 fois 3 pièces. D'abord autour de Dieu le Père, un chœur dans le style ancien, puis une fugue plus moderne et un duetto où les voix s'entrelacent comme une union du Père et du Fils. Le deuxième groupe de 3 pièces traite de Jésus, le Fils. Après l'évocation de l'incarnation vient le Crucifixus. Il a été crucifié pour nous, il a souffert sous Ponce Pilate et il a été mis au tombeau. C'est le morceau le plus ancien de la messe, puisque Bach reprend la musique d'une cantate de 1714 avec une basse obstinée dont le dessin revient obstinément.
Thank you.
Le Crucifixus est la pièce centrale du credo telle que l'a conçue Bach. La pièce qui signale la rédemption et qui rappelle que, selon Luther, la crucifixion est le fondement de la foi chrétienne. À l'affliction pesante du Crucifixus, Bach fait succéder la joie jubilatoire de la résurrection, et resurrexit tertiadie, et il est ressuscité le troisième jour. Tutti, trompette et timbales. À partir du Crucifixus, Bach opère ce que les rhétoriciens appellent un chiasme, une figure qui reproduit la lettre grecque chi, qui ressemble à une croix, et qui est aussi la première lettre du mot Christ. Les pièces vont se succéder à présent dans le sens inverse de ce qui s'est produit depuis le début du credo. Un chœur, ce Et resurrexit, un air, cette fois pour une basse, et pour conclure, deux chœurs. Après avoir consacré trois pièces à la figure du Père, trois à la figure du Fils, les trois dernières pièces du credo seront tournées vers le Saint-Esprit. Et in spiritum sanctum, et au Saint-Esprit, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Dans cette ère de basse, après la déclaration « Je crois en l'Esprit Saint », le texte du credo se poursuit par les mots « Je crois à l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Le fait que Bach, de foi luthérienne, mette en musique ce mot de « catholique » peut interroger. Mais alors donc, Bach renierait en quelque sorte sa religion protestante ? Eh bien non, puisque d'une part, Luther lui-même et avec lui, tous les tenants de la religion réformée ont adhéré sans restriction au texte du credo. Et d'autre part, le mot « catholique » venant du grec « katholikos » signifie « universel » et ne peut en aucun cas être pris au sens de « papiste ». Quoi qu'il en soit, Bach poursuit avec le « confiteor ». Confiteor Unum Baptisma. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. C'est un des derniers morceaux que Bach ait jamais composé. Il se termine par ces mots « Et expecto resurrectionem mortuorum »« J'attends la résurrection des morts ». Dans un passage très lent, Bach écrit une musique d'attente, très expressive, qu'on écoute sans savoir trop sur quoi elle va déboucher, dans un certain doute. Et Bach enchaîne, à ce moment-là, sur la dernière pièce du credo, dans laquelle il reprend les derniers mots « J'attends la résurrection des morts », qui se poursuivent cette fois avec la fin de la phrase « Et la vie des siècles à venir ». Cette fois-ci, le traitement musical est jubilatoire, sans l'ombre d'un doute. C'est donc en 1748-49 que Bach ajoute à la Missa qu'il avait composée pour les lecteurs de Saxe toute la fin de la messe telle qu'on peut la chanter dans la liturgie. Il est vrai que dans la liturgie luthérienne, on ne chante que le Kyrie et le Gloria. Néanmoins, rien n'interdit de chanter la suite. Mais donc se pose la question de pourquoi Bach compose-t-il une messe latine ? D'autant plus que la longueur de celle-ci, presque 2 heures, n'est pas adapté à une messe normale du dimanche. A-t-il reçu une commande ? Aucune trace ne reste, mais les chercheurs émettent quelques hypothèses. L'une d'elles est qu'il aurait eu en vue l'inauguration de la Hofkirche de Dresde, qui était en voie d'achèvement, la grande cathédrale catholique. Une autre est qu'il aurait reçu une commande de la Congrégation musicale de Vienne, qui organisait chaque année de grandes fêtes pour la Sainte-Cécile, le 22 novembre. Dans cette optique, la durée de la messe ne serait plus un problème, et même, elle pourrait tout à fait convenir à la solennité et au style de l'événement. Thank you. quelle que soit la raison pour laquelle Bach s'est attelé à la tâche de finir sa messe, les chercheurs ont établi qu'il y avait travaillé entre avril 1748 et octobre 1749. Je vous passe les détails d'analyse de papier, d'encre, d'écriture. C'est une véritable enquête scientifique. On ne sait pas grand-chose non plus de sa vie quotidienne à l'époque. Il est toujours en poste à Leipzig, il a encore des élèves et des enfants à la maison, notamment Johann Christoph Friedrich, 16-17 ans, qui l'aide beaucoup pour les travaux de copie. Après son voyage à Berlin de mai 1747 et sa visite à Frédéric II de Prusse, Bach a publié son recueil « L'offrande musicale », dont un an plus tard, tous les exemplaires sont vendus. Malheureusement, il a de plus en plus de troubles de la vue, et peut-être aussi une maladie neurodégénérative qui apparaît dans la déformation de son écriture. À la fin de sa vie, malgré la maladie, malgré sa santé déclinante, Bach a conservé son caractère vigoureux et combatif. Et il sait que pour achever sa grande messe, c'est contre le temps qu'il doit se battre. Il reprend certes des morceaux anciens qu'il adapte au texte latin, il reprend aussi intégralement le Sanctus qu'il avait donné 25 ans plus tôt. Il donne à l'ensemble une grande unité, tout en traitant chaque morceau avec une grande variété de styles et d'expressions. En 27 numéros, 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 3, il bâtit un monument à la fois musical et spirituel qui représente sa foi en la Trinité, et qui constitue pour nous à présent un patrimoine spirituel universel. Dona Nobis Pacem, le dernier chœur de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, enregistré par France Musique le 24 mai 2019 à la Philharmonie de Paris. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Claude Niort pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.